Bonjour à toutes et à tous, acrobates des neurones et sportifs sensibles, vous êtes à l'écoute du Journal des Rencontres, la 8e édition, qui vous parle dans le transistor depuis le studio 103 du Centre Le Bourneau, où nous sommes installés toute cette semaine. Vous le savez, on a posé nos valises, pour notre plus grand bonheur en tout cas, et peut-être le vôtre, je ne sais pas. Ce midi, focus sur le corps en mouvement, comment le filmer, qu'est-ce qu'il nous dit de notre société. Ça ne vous aura pas échappé, hein. Il y a des JO qui se préparent ici en France et les Rencontres des cinémas d'Europe en ont profité pour aborder le sujet en quelques films et une table ronde qui aura lieu ce jeudi à 17h30 au Centre Le Bourneau. Et nos invités qui ne devraient pas tarder, Jean-François Bayard, Thomas Gmür, Valentine Sabatou et Michel Errant viendront nous parler justement en avant-première de cette table ronde, de ces questions, comment on filme un corps, comment on filme les corps, comment on filme le mouvement. Avant ça, je vous propose quelques coups de cœur. C'est Julien Poujade de la Maison d'Images. Bonjour Julien.
Bonjour.
Alors toi, tu viens de nous faire une petite sélection là, de films que tu as très 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 envie qu'on aille voir.
Oui, alors j'en ai choisi trois. Il y a d'abord un documentaire que j'aime beaucoup qui s'appelle Apollonia Apollonia. C'est un film qui a eu un label Oh My Doc, mais qui parle de plein de choses. En fait, c'est un documentaire, c'est une documentariste, Léa Globe, qui a filmé une artiste en devenir pendant 13 ans. C'est-à-dire que c'est parti d'un portrait de fin d'études, on va dire. Elle commence à filmer il y a 13 ans. Et on voit du coup Apollonia Sokol, qui est devenue aujourd'hui une artiste reconnue dans l'art contemporain. Et ben, on la voit aux Beaux-Arts au début, et puis à la fin, elle finit à la Villa Médicis parce que c'est là un peu la consécration, on va dire, pour les artistes, les jeunes artistes. Donc ce film est intéressant par plein de facteurs. À la fois, c'est un portrait de femme, on va dire, d'une artiste. C'est aussi le portrait d'une femme engagée. Pour les causes des femmes, des minorités, c'est aussi un portrait, on va dire, de la société de l'époque, parce que cette femme, Apollonia Sokol, a grandi en fait dans une salle de spectacle que tenaient ses parents, et cette salle de spectacle a accueilli en fait les fémènes quand elles se sont réfugiées en fait en France.
D'accord.
Et donc du coup, il y a en toile de fond toute cette histoire là aussi qui est présente. Donc du coup, c'est assez passionnant. Ce sont des montages, le montage, vous imaginez les rushs pendant 13 ans de films. En plus, il y avait des archives d'avant, de son enfance, c'est assez énorme. C'est aussi un portrait de la réalisatrice, puisque en 13 ans, elle a elle aussi beaucoup évolué. Donc, un film passionnant à plein d'égards.
Ah ouais.
Voilà. En particulier, ça permet aussi de voir à plein d'égards, mais ça nous a permis aussi de le mettre en écho avec l'action qui est là aujourd'hui dans les rues, les chaussures rouges.
Et ben merci, voilà. Ouais, merci d'en parler.
Et
là,
donc du coup, qui sont venus présenter donc avec le CIDF. CIDFF, voilà. Donc il y a une action, on va dire, en ce moment, en face de la Poste, place du Champ de Mars.
Ouais. De 10h à 15h voilà. Sur l'Agora, ici à Aubenas. Mais il y a d'autres actions qui ont lieu au Teil, à Privas.
Voilà. Une autre artiste engagée, justement, qui a eu l'idée de cette action-là, mais un peu comme Apollonia. Donc voilà, je vous invite vraiment à découvrir ce film qui est formidable, tout simplement.
Il y a encore quelques séances pour le voir ?
Oui, il y en a une aujourd'hui, je crois, ce soir.
À 17h.
Voilà, c'est une avant-première. Hein, il sortira en mars, sinon
d'accord.
C'est les gens qui le loupent ici. Voilà.
Merci beaucoup. Alors, Jean-François Bayard est entré dans le studio.
Bonjour,
sportif.
Bonjour Jean-François.
Mais oui, c'est le thème, c'est le sport, donc on vous fait un petit peu courir entre deux.
Du retard, mais on avait une séance absolument passionnante.
Ah.
Du coup, mes amis arrivent, mais je leur ai donné un petit délai de grâce pour qu'ils puissent quand même voir la fin du film.
D'accord.
Ils me raconteront.
Et donc, c'est la théorie du tout, c'est ça ?
Oui, un film absolument extraordinaire, superbe, noir et blanc. Je crois que malheureusement, c'est la dernière séance, c'est la raison pour laquelle on s'est permis d'y aller. en flirtant un petit peu avec l'horaire. Mais c'est un film absolument impressionnant, superbe, très mystérieux et une beauté d'image formidable.
Merci de nous avoir vendu un film que nous ne pourrons pas aller voir. Merci beaucoup. Pendant les rencontres des cinémas d'Europe, en tout cas. Mais peut-être ailleurs. C'est pas une avant-première
Peut-être, si.
Si, c'est une avant-première. C'est une avant-première. Bon, au printemps.
Donc là aussi. Tu voulais, voilà, ouais, tu peux continuer.
Oui,
alors après, sur deux autres
films. Voilà, il y avait deux autres films. Donc il y a The Cat Girl dont je voulais parler, qui est un film irlandais, qui est aussi, alors on parlait aussi de beauté, d'image et de plan. Voilà, là, on peut dire que c'est formidable. C'est pas du noir et blanc, c'est de la couleur, mais c'est magnifique.
Donc très très belle.
Avec une histoire très poignante et émouvante. Enfin voilà, je pense que vous pouvez y aller. C'est un vrai film des rencontres. Alors, pour la petite histoire, qui a été tournée en gaélique, donc c'est pas en anglais, hein, c'est vraiment la langue irlandaise, on va dire, d'origine, qui est très peu parlée, on va dire, encore aujourd'hui, enfin voilà, mais qui est encore dans certaines régions. Mais du coup, voilà, je vous invite vraiment à. C'est une adaptation littéraire aussi, dont vous avez le livre à la librairie, j'en profite pour, pour en parler, de la librairie des rencontres. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas à aller découvrir le fin fond de l'Irlande rurale avec cette très très belle histoire.
Très belle histoire d'une petite fille, un très beau film sur l'enfance.
J'essaie d'en dire le moins possible,
mais... Non, on n'en dit pas plus. Allez voir The Quiet Girl.
Voilà.
Et dernier film aussi, une jeune fille.
Oui, encore une petite fille. Mmh. Donc voilà. Alors il est là aussi question de deuil, on va dire.
C'est toi qui en dis trop.
Voilà. Ouais. Donc c'est Linda. Linda veut du poulet, donc qui est un film d'animation là pour l'histoire, mais vous allez voir, c'est formidable. Il faut que les grands, les adultes y aillent. C'est pas ne vous dites pas que c'est pas pour vous. Alors à la fois vous allez beaucoup rire, vous émouvoir. C'est alors un des réalisateurs, en tout cas celui qui fait les images et les dessins, il est connu, c'est celui qui avait fait La jeune fille sans main, qu'on avait proposé aux rencontres il y a longtemps, 6 ans peut-être, je ne sais plus. Je me rappelle, la projection a encore été à l'ancien navire, l'ancien cinéma.
C'est Sébastien...
Lodenbach, voilà. Je ne sais pas comment on dit.
Selon l'humeur du jour.
Voilà, mais en tout cas, c'est, alors, voilà, l'animation est vraiment très particulière, très poétique, très belle. C'est beaucoup de peinture, en fait. Lui, il fait beaucoup d'aquarelles. Enfin, voilà. C'est assez magnifique. Et puis, l'histoire aussi est émouvante et très drôle. Voilà. Et puis, il y a beaucoup de policiers, comme le dit son titre. Et un poulet aussi.
Linda veut du poulet. Super. Merci beaucoup, Julien.
Et ben de rien. Bon festival à tous.
Oui, on continue. Jean-François Bayard, donc vous êtes avec nous, et Léna Didier, j'ai oublié de dire que tu étais là aussi.
Bonjour.
Léna, bonjour, et Nico d'ailleurs à la technique. Au revoir,
salut.
Julien, à bientôt. Et Sylvain à Fréquence 7 de l'autre côté de Benoît. Donc merci de nous avoir rejoint, Jean-François Bayard, qui allait animer cette table ronde ce soir à 17h30. Ce focus donc autour du corps en mouvement. Donc c'est pas n'importe quel corps, c'est pas le corps forcément érotisé, c'est pas le corps désirant, c'est le corps en mouvement. Un mot d'abord sur, en attendant les autres invités, sur le focus et sur ce que vous allez, sur les pistes de réflexion que vous allez initier tout à l'heure à 17h30.
Alors peut-être plus largement l'histoire du focus, très honnêtement je ne sais plus à combienième édition nous en sommes, mais c'est un vieux partenariat maintenant que nous avons noué les rencontres et moi-même comme chercheur et enseignant actuellement à Genève, et l'idée est de faire se rencontrer d'une part le regard cinématographique à tout seigneur tout honneur, et d'autre part les réflexions des sciences sociales. relative à l'image, mais aussi aux phénomènes que peuvent évoquer ou mettre en image le cinéma en particulier. Et avec cette dimension européenne qui est très importante, et je crois qu'il faut véritablement saluer enfin ces rencontres des cinémas d'Europe. Je pense que c'est à peu près, j'en parlais l'autre jour avec une fonctionnaire française auprès de la Commission de l'Union européenne, et c'est sans doute, peut-être, je ne sais pas, le seul cinéma en Europe qui soit consacré au cinéma d'Europe. Ça paraît complètement dingue. Et elle-même n'en revenait pas. Donc cette dimension européenne, elle est formidable, et d'autant plus formidable qu'elle est restituée en version originale, avec des sous-titres. Donc le rôle du Focus, c'est d'amener vers ces superbes rencontres des chercheurs qui sont spécialistes des thématiques que nous choisissons pour le Focus. L'année dernière, nous avions fait jeunesse, genre, sexualité, tout ça au pluriel. Et au fond, en discutant avec Cathy, il nous est apparu que de prolonger le focus de l'année dernière vers le sport, notamment à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris lors du prochain été 2024, ça avait un sens parce que le corps en mouvement sportif, si je puis dire, c'est aussi un corps désirant. Alors ce n'est évidemment pas le même désir que le désir érotique ou le désir sexuel, mais nos amis en parleront tout à l'heure mieux que je ne le fais, parce qu'eux-mêmes sont des sportifs, ce que je ne suis pas à proprement parler, mis à part le footing que nous faisons tous de temps à autre. Eux-mêmes en parleront, mais un corps en mouvement sportif, ou également un corps dansant, parce que dans le focus, il y a également la dimension de la danse, ce sont aussi des corps désirants. Mmh.
Que vous distinguez donc du sport ? Enfin, vous venez de faire la distinction.
Oui, mais c'est une distinction de présentation. Je dirais, très honnêtement, j'ai pas une pensée très arrêtée sur la chose. Il y a évidemment une dimension sportive dans la danse. Il y a aussi une dimension de création. Mais nous en parlions l'autre jour dans le train avec nos invités. Dans le sport, il y a aussi une dimension de création. Mmh. Et c'est sans doute l'un des sujets qu'ils vous ont abordé tout à l'heure quand ils nous auront rejoints, lorsqu'ils se seront arrachés à la magie du film que nous sommes allés voir ce matin.
Et qu'ils viendront en petite foulée, on l'espère, pour venir nous parler de tout ça. J'ai l'impression qu'ils arrivent. Oui, c'est vraiment multidimensionnel, là, ce que vous allez aborder tout à l'heure, vraiment avec une forte dimension politique, voir comment finalement le sport s'immisce, comment on incorpore certaines valeurs peut-être.
Tout à fait, et ça sera un point essentiel de notre démarche. On pourrait peut-être commencer par le plus simple, qui même peut-être le plus simpliste, c'est-à-dire les réactions évidentes entre le sport, le politique et l'image. Bon, nous avons tous, je crois, en tête, en mémoire, d'une manière ou d'une autre, l'usage politique qui peut être fait par certains régimes du sport et de la mise en image de la scénographie du sport. On pense tous, par exemple, aux Jeux Olympiques organisés à Berlin par Hitler et à la mise en image tout à fait spectaculaire de ces Jeux. On a tous en tête les Jeux Olympiques de Pékin qui ont été un élément à la fois d'affirmation de la puissance chinoise dans le monde global, mais également un grand moment scénographique tout à fait spectaculaire. On sait également l'usage que les soviétiques, que l'Union soviétique a pu faire du sport pour affirmer le rayonnement de son modèle socialiste, et avec toutes les questions éthiques qui étaient liées bien entendu à ce genre de démonstration. Il y a un autre aspect qui me tient particulièrement à cœur, ayant moi-même beaucoup travaillé sur les sociétés africaines, c'est la manière dont le sport a été un moyen dans les sociétés colonisées d'appropriation, mais d'appropriation vraiment au sens, si je puis dire, marxien du terme. C'est-à-dire l'appropriation, c'est aussi la création. Donc de l'appropriation de l'État colonial, de l'économie coloniale, de l'épistémé, de la vision du monde de la colonisation. Et par exemple, le cricket, qui est un sport ô combien anglais, ou en tout cas britannique, le cricket a été a connu une vogue absolue et continue de connaître une vogue absolument, un engouement absolument incroyable en Asie du Sud, en Inde, au Pakistan, en Afghanistan, et l'Afghanistan est très fier de l'avoir remporté je ne sais plus quelle victoire de cricket. Donc ça c'est un autre aspect des choses. Il y a une troisième dimension qui me paraît intéressante, c'est que à travers le sport on voit bien comment deux logiques qui nous paraissent a priori contradictoires sont en réalité en synergie. D'un côté, il y a la globalisation, la mondialisation, et puis d'autre côté, il y a l'État-nation. Et souvent, on postule qu'il y a une contradiction entre les deux. Et moi, personnellement, comme chercheur, je ne suis absolument pas de cet avis, et je pense que l'universalisation de l'État-nation est une manifestation de la globalisation ou de l'intégration du monde. Et le sport le montre très bien, parce que c'est évidemment à la fois un événement mondial, et c'est bel et bien à travers le sport que nous incorporons la globalisation. N'importe quel gamin dans n'importe quelle banlieue du monde, d'Afrique ou de Brésil ou je ne sais où, sait jouer au football et conquis, ravi par le football. Donc c'est une technique du corps que nous pratiquons quasiment tous à l'école ou dans nos loisirs ou dans les sports. Tout cela est relayé par les mises en image par les grands médias mondiaux, donc il y a vraiment une globalisation par le sport, et d'un autre côté la pratique du sport est un élément d'affirmation et de fierté nationale, au point d'ailleurs que dans certains continents il y a eu des guerres du football entre le pays gagnant et le pays perdant. Donc politiquement le sport a beaucoup à nous dire, mais également dans son rapport à l'image, que ça soit par le biais des médias ou par le biais du cinéma, parce qu'il y a eu de grands films consacré au sport. Mais là, je laisse la parole à mes coéquipiers, parce qu'ils sont plus compétents que moi sur le sujet.
Qui viennent d'arriver. Merci à vous. Merci à vous d'être venus jusqu'ici. Je présente à ma droite Valentine Sabatou. Bonjour. Alors, hop là, je vais vous...
Bonjour.
Donnez le micro. Tout ça, c'est le côté un peu festival. On y va, on improvise. Merci d'être là. Valentine Sabatou, vous êtes ancienne gymnaste dans l'équipe de France. Vous avez été d'ailleurs championne de France en 2013, je crois. Vous êtes, j'allais dire, émancipée de cette équipe de France. Enfin, vous êtes partie et vous êtes actuellement danseuse contemporaine. Et je vous laisse la parole, peut-être mieux...
Sur mon parcours.
Oui, juste en deux mots.
Bah, effectivement, j'ai fait 9 ans de gymnastique de haut niveau, 7 ans en équipe de France. Et à l'issue de ça, à 19 ans, j'ai arrêté ma carrière. Et puis j'ai traversé une phase de reconstruction, parce que ça a été... une expérience assez violente pour une jeune jeune femme. Et oui, à la suite de cette carrière, je me suis reconstruite et pour finalement aboutir sur une pratique de danse contemporaine, donc une redécouverte de mon corps, d'une manière de la... Une manière de, comment dire, de redécouvrir une pratique corporelle à travers la danse contemporaine.
On va en parler, c'est très très intéressant. Je vais présenter les autres invités, mais c'est vrai que cette redécouverte du corps, ça pose beaucoup de questions sur le sport, enfin sur la thématique du focus, c'est sur le corps en mouvement, bien sûr en rapport avec les JO, mais quelle est la place du corps finalement dans le sport? Est-ce que c'est pas assez certain? Je pense à Robert Redeker par exemple, parle que le sport, enfin pour lui, selon lui, le sport c'est finalement véhicule une haine du corps, contrairement à ce que on pourrait imaginer, on pourrait penser. Je vous laisserai réagir. Vous voulez peut-être réagir de suite?
Pourquoi pas, oui. Ben, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais effectivement, je me suis surprise avec du recul à comprendre que je n'étais plus qu'un corps. Mm-hmm. En oubliant même la capacité à penser, à réflexive sur sa propre condition de sportive. Mais à la fois, j'étais complètement dissociée de mon corps à tel point que je n'avais plus de prise sur des sensations physiques, des alertes ou de douleurs, ou bien des sensations agréables. Je me suis petit à petit éloignée de ce qu'on peut appeler des sensations physiques ou corporelles. Oui, c'est cette ambivalence du sport de haut niveau que je trouve particulière. Dans des conditions, dans la gymnastique, peut-être c'est le cas, c'est différent pour l'athlétisme.
Alors, voilà, merci. On va en parler donc avec Thomas Kmür. Donc, vous êtes co-organisateur du Focus. Vous êtes aussi doctorant au département sciences politiques de l'IHEID de Genève, où travaille Jean-François Bayard également. Et donc, vous avez vous aussi une pratique sportive, ce qui est intéressant pour mêler les deux. Et je présente le dernier invité, Michel Héron.
Héron,
ouais.
Bonjour.
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 Bonjour. Alors vous partagez, oui, c'est ça. On a, c'est le côté convivial. Vous partagez un micro pour deux. Michel Héron, vous êtes philosophe. Vous avez fait une thèse sur Nietzsche et Dionysos, c'est ça?
Exactement, ouais.
Et puis, de peur, alors j'ai lu ça, mais de peur de vous assécher, et j'aime beaucoup, de peur de vous assécher, vous êtes parti de là et vous avez, vous êtes concentré davantage sur le sport et sur la pratique sportive, vous êtes maintenant accompagnateur. On va dire accompagnateur, entraîneur, dans une volonté, ai-je lu, de libérer les corps.
Exactement, vous êtes bien renseigné. J'ai fait une thèse de doctorat, mais à vrai dire, je suis tombé dans le sport quand j'étais petit, comme Obélix dans la potion magique, pour ainsi dire. Et mes parents, enfin mon papa était entraîneur, était sportif, et il l'est d'ailleurs toujours, sportif, mais plus entraîneur. Et j'ai fait une thèse de doctorat pour comprendre. J'ai passé à l'université d'abord de manière très naïve, et ensuite j'ai cherché à comprendre le pourquoi du comment de mon existence et de ce que je fais. Et effectivement, le sport dans le monde académique, en philosophie, c'est pas la chose la plus convoitée, la plus appréciée. On rigolait hier parce que j'ai des collègues assistants qui me disaient qu'il fallait surtout pas parler de ça à mon prof. Comme quoi je faisais du sport, et ce qui était tout faux parce que mon prof était aussi rompu au sport, pas du tout de la même manière que moi, le sport santé, alors que moi j'étais tombé dans un sport de performance. Et de fil en aiguille, à vrai dire, mes travaux pratiques de philosophie, j'ai commencé à les faire depuis maintenant bientôt 20 ans. Dans le monde de l'athlétisme, où j'ai plusieurs casquettes. J'aime assez le mot d'accompagnateur, même que c'est pas le mien, mais je trouve très très bien. Ou à vrai dire, je suis entraîneur, je suis animateur aussi de grands événements sportifs. Et tout l'enjeu est de libérer les forces cachées dans les corps. Et j'ai bien aimé ce que ce qu'on vient d'entendre tout à l'heure, à vrai dire, pour qu'il n'y ait pas de dissociation. Moi, je crois qu'il y a une grande raison du corps, il y a une grande intelligence du corps, et tout l'enjeu, ça serait de pouvoir faire parler le corps sans qu'il y ait la raison, la petite raison, la petite subjectivité rationnelle, morale, qui entre en ligne de compte. Et là, tout à coup, la pratique sportive devient passionnément intéressante. Et belle.
On reconnaît Nietzsche en vous.
Je voudrais juste réagir. Souligner le remarquable lapsus entrée en ligne de corps. Je trouve que c'est superbe.
Merci Jean-François.
On est quand même aux Rencontres des cinémas d'Europe. Il y a 4 films qui sont proposés dans le focus, qui me semble, malheureusement, vous n'avez pas pu voir ou vous en avez vu certains. Thomas, vous en avez vu ?
Oui, le film. Bonjour à tous. J'ai vu le film Oli Maki, pas dans le cadre des rencontres, mais ça fait quelques temps maintenant, qui, d'une certaine manière, parle aussi de cette dissociation entre une pratique qui est vécue comme une tentative de renouer avec une forme de liberté ou une forme de rapport à son corps qui permet d'ouvrir des possibilités, et puis des structures qui sont aussi celles de l'entraîneur dont t'as pas parlé mais qu'a sous-entendu Valentine, ou d'une fédération qui organise des rencontres de boxe, et puis là, comment ça va se... Finalement, la politique dans le sport, ça peut être aussi ça. Jean-François nous a parlé de beaucoup de choses au niveau macro, et il y a des choses qui se passent aussi au niveau micro. Et là, il y a des enjeux de rapport entre ces différentes logiques, de rapport au corps, certains qui libèrent les corps et d'autres qui les enferment. Et donc, tout l'enjeu, ce sera de trouver des moyens de faire du sport, de la danse, d'encourager ça.
Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit, Valentine et Michel, pour faire un lien avec le film de Dancing Pina. Donc, Dancing Pina, c'est un documentaire qui retrace la remise en scène, si on peut dire ainsi. Tu dirais, Sophie ?
Une réappropriation, une nouvelle adaptation des œuvres de Pina Bausch.
De deux grandes œuvres de Pina Bausch, Iphigénie Antoride et Le Sacre du Printemps. Donc, ce sont des danseurs qui ont dansé avec Pina, qui vont apprendre ces mouvements à un groupe de danseurs au Sénégal et un groupe de danseurs en Allemagne. Et ils vont se réapproprier ces mouvements. Et l'idée, c'est pas de... Les danseurs qui enseignent, ils disent bien, l'idée, c'est pas de faire une copie, mais c'est de réincarner cette pièce et pour qu'elle continue de vivre. Et ce qui est très intéressant dans leur approche, c'est que ça va un peu à contre-pied de la danse classique, du ballet, où on demande vraiment au corps de rentrer dans un cadre, comme vous l'avez peut-être vécu avec la gymnastique, Valentine.
Et de là, s'effacer de son propre corps, presque.
Voilà. Et là, plusieurs fois, les deux danseuses qui enseignent, elles incitent les danseuses en train d'apprendre la pièce d'assumer leur corps. Par exemple, il y a une femme qui est très grande et qui souvent a eu des problèmes justement à se faire intégrer dans des pièces de danse du fait de sa taille. Et elle lui dit, ne fais pas comme si tu mesurais un millimètre de moins. Et souvent, elles reprennent aussi les danseurs en leur disant que ce qui fait l'âme de... qu'il faut qu'elles mettent de l'âme dans les mouvements. Et donc, c'est vraiment... Le contraire de s'effacer de ses sensations, en fait, et que ce qui va faire le pouvoir de la pièce, c'est justement qu'ils ressentent les mouvements et qu'ils y mettent leur personnalité à eux.
C'est vraiment... On a vu ce film toutes les deux, donc c'est le seul film de la sélection, malheureusement, qu'on a pu voir. Il y a L'Équipier aussi, Oli Maki, dont vous venez de parler, et Pearl. On en dira peut-être un mot tout à l'heure, mais c'est vrai que Dancing Pina paraît être un film qui ouvre justement sur enfin une libération des corps, enfin, justement, être, c'est l'expression, tu l'as justement dit, l'expression de soi-même, l'acceptation de son corps tel qu'il est et non pas tel qu'il devrait être. Certes, le corps est évidemment travaillé, mais il n'est pas travaillé en série ou standardisé. Il est travaillé avec la matière même de qui il est. Et vous vouliez réagir, Valentine ? Enfin, je vous ai...
Oui, ça me parle beaucoup. Ce que vous dites, on en parlait dans le train hier en arrivant. C'est clair que la règle, on parlait de règles et de codes dans le sport, finalement, dans la gymnastique, a effacé effectivement la personnalité de chacun des corps pour en faire un prototype pensé, pré-pensé, pour la performance, ou en tout cas pour une forme d'esthétique dominante, enfin demandée en gymnastique. Mmh. Et ce que j'ai réalisé au courant des 8 années de processus de reconstruction, j'ai terminé, je pense que c'était ma dernière phase de guérison, c'était cette année de formation de danse où je me suis plongée concrètement sur la réécriture d'une autre forme, d'autres possibles, d'autres devenirs sur une mémoire qui était hyper ancrée et définie de mon propre corps, codifiée par ces règles de gymnastique et ces injonctions, quoi. Et j'ai essayé de faire venir, de faire apparaître les forces, les impulsions de mon propre corps et de comprendre jusqu'où, à partir de quel corps et jusqu'où je voulais danser ou utiliser mon corps. Mmh. Et ça rejoint vraiment ce travail de connaissance propre de son propre corps pour pouvoir en faire de la matière à créer et pas une force extérieure. Ça provient de son propre intérieur, quoi. Mmh. Et ouais, par rapport à Pina, je l'ai pas encore vu, mais ça me parle de cette manière.
Mmh. Jean-François, vous vouliez intervenir?
Ah. La projection du film samedi sera précédée d'une performance du danseur Bilal El-Ami Badissi, que nous avions pu inviter l'année dernière. Et Bilal, quand il avait, je crois, 15 ou 16 ans, et quand il a compris qu'il voulait se destiner à la danse, a envisagé et plus ou moins posé sa candidature à l'Opéra de Paris, à la troupe de l'Opéra de Paris. Et on a immédiatement écarté son dossier parce qu'il n'avait pas la bonne taille et qui n'avait plus rien à voir. Et je trouve que c'est un très bel exemple de normiso du corps sportif ou danseur par certaines institutions.
Là, on a... Il y a énormément de questions. Là, le temps nous est imparti. On est déjà en off. Mais comme on est à fréquence 7, on s'autorise justement un peu de continuer une troisième mi-temps entre nous et en direct. Sur cette question des normes, des valeurs qui sont véhiculées et qui sont montrées, c'est quelque chose de très fort. Vous allez en parler parce que c'est éminemment politique. Comment en tant que société, d'après vous, le sport et même pour certains, je reviens sur l'ouvrage très intéressant de Robert Redeker que peut-être vous connaissez. Sur l'emprise du sort, vous n'êtes peut-être pas forcément d'accord avec cette vision, mais pour lui, il a vraiment une vie. Enfin, le corps est une manière, le sport, pardon, est une vision du monde qui a finalement, on va dire, infiltré toutes les sphères. De la société et notamment avec une vie qui porte certaines valeurs comme les valeurs de compétition bien sûr, de performance mais d'une forme de performance d'évaluation et d'humiliation qui va de pair avec une certaine humiliation. Est-ce que ça c'est Est-ce que ça, pour vous, c'est quelque chose qui vous parle?
C'est à moi de répondre, visiblement. Oui, bien sûr, mais il faut toujours faire attention avec les gens qui écrivent des livres. Mmh. C'est qu'ils partent souvent, non pas d'une expérience de la pratique dont ils parlent, mais d'une vision extérieure. Mmh. Toute notre tradition depuis Platon est basée sur des idées, et tout le monde cherche à réaliser des idées. Et ça fait qu'on est dans un monde idéologique aujourd'hui, peut-être plus que jamais, même quand on ose à peine le dire, mais c'est vraiment des guerres d'idéologie qui se jouent à tous les niveaux. Et l'expérience sportive n'est pas du tout de cet ordre-là, puis c'est une expérience d'abord corporelle. Et ensuite, elle est récupérée par des idéologies, bien entendu, en direction de la performance. Mais c'est extrêmement intéressant si vous parlez vraiment, non pas en relation sujet-objet, comme on le fait traditionnellement, par ces idéologies, donc dans un journalisme habituel ou dans une vision du monde habituelle, tout à coup, il se passe des choses incroyables qui émergent. On va dire le sportif est porté par des forces surpuissantes. Et s'il le fait, alors il y en a qui rêvent quand on est jeune, ou c'est, à vrai dire, surtout les parents qui rêvent de médailles, de gloire, etc. Mais ce dont rêve le jeune sportif, et le sportif de tout âge finalement, c'est de vivre une expérience d'une intensité rare, qui est une expérience de vie, qui est une expérience de corps, et qui a rien à voir avec l'idéologie, bien au contraire, qui est peut-être le seul endroit dans notre monde actuel où on a encore l'occasion d'être libéré de cette idéologie. Mmh. Et ça dépend, c'était très beau aussi, j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit sur Pina Bausch. Je connais bien Pina Bausch, mais j'ai pas vu le film, mais je me réjouis ardemment d'aller le voir, où tout son travail aussi, c'est il faut pas réaliser une idée, c'est pas de la danse classique où on doit devenir des petits pions, mais il faut apprendre à se connaître en ces forces mystérieuses qui sont bien plus grandes que ce qu'on croit, qui sont bien moins limitées que ce qu'on croit pour réaliser sa vie. Et le sport peut apparaître comme un véritable réalisateur de vie. Après, il faut faire très attention parce qu'il est pris dans un système de compétition, d'argent, des idéologies à non plus finir. Mais là, c'est le rôle de chacun et d'entre nous de faire en sorte que la pratique saine du sport soit valorisée et mise en... Oui, soit...
Et c'est là peut-être que, puisqu'on est au cinéma, je fais le lien avec le cinéma, que le cinéma a peut-être un rôle à jouer dans ce qu'il montre de la performance et du sport. Parce que quand on va regarder un exploit sportif à la télé, on va pas voir les coulisses ni les conséquences. Et c'est peut-être là que le cinéma, il peut changer les mentalités, ou du moins y contribuer, en montrant aussi le corps qui souffre et en montrant tout ce que ça implique, cette performance.
Je suis parfaitement, parfaitement d'accord avec vous. Le corps qui souffre, et c'est là qu'il faut faire très attention, le corps jusqu'où. Qui souffre, c'est jusqu'où, mais qui est en même temps un plaisir.
Oui.
Et on n'est plus dans cette idéologie, justement, où il faut que ça soit bien, il faut que ça soit beau, il faut que ça soit vrai, il faut que ça soit sain, etc. C'est un jeu de la vie, donc très très intense de la vie, où c'est toujours une ambivalence. Plus la souffrance est grande, plus le plaisir est grand, mais il n'y a pas de plaisir dans le sport, il n'y a pas de plaisir dans la pratique sportive et corporelle d'une manière générale, j'ose dire, sans qu'il y ait une souffrance, sans qu'il y ait une part... on est toujours sur cette crête, et à vrai dire, il faut que cette crête de montagne soit la plus élevée possible pour avoir le plus d'intensité possible.
Pour rebondir aussi sur les films, L'Équipier, qui est un film justement au cœur du Tour de France, en exergue du film, il y a cette citation d'Eddy Merckx: la victoire est à celui qui souffrira le plus. Certes, pourquoi on est proche presque du mysticisme là. La souffrance. Enfin, je sais pas. C'est une question. C'est ouvert, mais en tout cas, merci, puisqu'il nous reste là vraiment plus de temps. Merci de remettre l'expérience du sportif au centre, l'expérience de l'humain avant même de choses. Mais l'expérience de l'être vivant qui fait une activité physique.
Non encore aliénée.
Et probablement différente du sport tel qu'il se caractérise. Si toutes ces questions vous stimulent, venez à 17h30 ici au Centre Le Bourneau avec nos invités qui seront là et qui ont plein de questions aussi et plein de et quelques réponses, j'imagine. En tout cas, ils seront là pour en parler avec vous, donc au Centre Le Bourneau à 17h30. Merci beaucoup à tous. Désolé pour ce temps finalement si peu grand pour vous.
Merci beaucoup, c'était très bien.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Et on se retrouve tout à l'heure à 17h pour parler de toute autre chose. À tout à l'heure.